Mona Greenbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien, vous?
Oui, je vais bien, merci. Mona, dans ce guide-là, on le sent bien, je le disais en introduction, on tente de mieux saisir la réalité des familles LGBT. C'est une façon d'éliminer les préjugés, hein, lorsque l'on comprend mieux. Souvent, ça nous aide un petit peu à repousser nos limites. Toutefois, moi, je me dis, au départ, pour comprendre, on doit aussi pouvoir mettre les choses dans leur contexte. Hein? Et j'ai besoin de savoir, en premier lieu, d'avoir un petit peu un portrait de ces familles-là au Québec. Évidemment, la coalition est à Montréal. Peut-être vous n'avez pas cette vue d'ensemble de toutes ces familles québécoises LGBT, mais il y en a à peu près combien et comment elles sont formées?
OK. Mais premièrement, on est un organisme québécois, donc c'est pas juste Montréal, mais on a des membres à travers le Québec. En termes de nombre, je dirais, c'est difficile de savoir exactement, parce que même comme le nombre d'homosexuels qu'il y a dans notre société, on ne sait pas est-ce que c'est 5%, 10%, 12%, c'est pas sûr, ça dépend qui pose la question, comment, etc. Donc, pour les familles, c'est encore plus compliqué. Mais selon des statistiques qu'on a de l'Institut de la statistique du Québec, on sait qu'il y a des milliers d'enfants vivant dans des familles homoparentales au Québec. Juste à la coalition de notre organisme, on a autour de 1400 familles. Et puis, évidemment, c'est pas toutes les familles qui sont membres de notre groupe.
Ouais.
Donc, on est une minorité, c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui vivent dans ces familles-là. En termes de comment est-ce qu'on forme nos familles, donc, je dirais qu'il y a les mêmes choix disponibles à nous qu'à la communauté des futurs parents hétérosexuels. Ça peut être par l'adoption, ça peut être... Il y a des enfants, c'est sûr, qui sont conçus dans des contextes de relations hétéros où un parent fait une coming out plus tard. Mm-hmm. Mais il y a l'adoption, il y a les cliniques de fertilité, il y a les mères porteuses, ce qu'on appelle la gestation pour autrui. Il y a des familles d'accueil, il y a la coparentalité. Donc, il y a des inséminations maison avec des donneurs connus. Donc, c'est vraiment au Québec, contrairement à beaucoup d'autres places dans le monde, on a une grande variété de choix.
Oui, plusieurs modèles, est-ce que je peux entendre. Est-ce qu'on sait, Mona, et là peut-être que je vais plus dans les détails, mais est-ce que l'on sait si les familles LGBT au Québec, c'est plus des papas homosexuels ou des mamans lesbiennes ou des parents transsexuels? Est-ce qu'on est capable de pouvoir vraiment identifier ça?
Mais ce qu'on sait, c'est que c'est sûr qu'il y a plus de mères lesbiennes que de pères gays, parce que, évidemment, physiologiquement, c'est plus facile pour les femmes de fonder une famille que pour les hommes.
Ouais.
Aussi, il y a... C'est vrai à cause des stéréotypes sexuels. Donc, par exemple, c'est bien vu dans notre société que les femmes s'occupent des enfants, mais l'idée que deux hommes fondent une famille ensemble sans avoir la présence d'une femme, c'est moins bien accepté. Il y a toujours des notions sexistes, c'est ça.
Ouais.
Pour les familles transparentales, il y a encore moins, parce que l'acceptation sociale dans notre société, ça commence juste ça vient juste de commencer pour les personnes trans. Je dirais que les personnes trans sont comme un peu dans la place où les homosexuels étaient dans les années 60 ou 70. Donc, mais quand même, ça existe. Et puis, on a, comme dans notre organisme, on a plusieurs familles transparentales, pas une énorme quantité, mais probablement comme 1% de nos familles. Et je pense qu'on va voir de plus en plus, parce qu'avec cette acceptation sociale, il y aura de plus en plus de personnes trans qui vont penser à l'idée de fonder une famille.
Oui. Vous parlez d'acceptation sociale, Mona Greenbaum, et je trouve ça plutôt intéressant parce que ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est cette acceptation sociale-là, souvent, qui est un facteur de protection pour les enfants, beaucoup plus que la famille elle-même. C'est-à-dire, je m'explique qu'une famille LGBT n'a pas nécessairement d'impact sur le développement de l'enfant, mais c'est plus après les préjugés qui viennent de la famille.
Mais on peut pas dire que la famille n'a pas d'impact sur le développement de l'enfant. Ça, c'est sûr que ça, c'est la chose la plus importante, les parents,
oui, c'est vrai.
La famille. Oui, mais quand même, c'est vrai ce que vous dites, que l'acceptation sociale est très importante. Et puis, donc, ce qu'on a vu au Québec à travers les derniers 15, 20 ans, c'est une acceptation grandissante. Donc, on sait que quand notre organisme a été fondé dans les années 90, même le mot homoparental n'existait pas. On était tellement invisible. Et puis là, comme 20 ans plus tard, tout le monde, ou presque tout le monde connaît au moins comme une personne qui vit dans une famille homoparentale. Et puis, avec cette visibilité, on a une plus grande acceptation parce que finalement, les gens constatent que nos familles ne sont pas si différentes que les autres, ouais, et puis que les enfants vont aussi bien. Donc, les préjugés ont beaucoup tombé aussi. C'est sûr que ce qui a aidé aussi au Québec, c'est le fait que légalement, on a une pleine reconnaissance légale depuis 2002. Donc, il n'y a pas comme un mot dans le Code civil qui discrimine contre nos familles. Donc, ça aide aussi. Donc, c'est sûr que comme l'expérience de nos enfants, et puis il y a eu des études sur ça aussi ici au Québec avec la chaire de recherche sur l'homophobie à l'UQAM, où ils ont étudié l'expérience des jeunes en milieu scolaire. Et puis ce qu'on sait, c'est que les enfants ici au Québec dans les familles homoparentales sont pas plus cibles de l'homophobie que les autres enfants, mais ils sont plus sensibles à ça. Donc, ils vont pas nécessairement être harcelés plus que les autres enfants, mais quand ils entendent des mots homophobes à l'école, comme fif, tapette, tout ça, donc ça va les toucher. Donc, c'est sûr que ça fait un impact, mais de toutes les études qu'on a, et puis maintenant, rendues à 2016 au Québec, et puis en Amérique du Nord en général, on peut dire qu'il y a des centaines et des centaines d'études qui ont été faites sur les familles LGBT, et puis de tout ce qu'on sait, il n'y a aucune différence en termes de leur développement en comparaison avec d'autres enfants. Donc, ils ne vont pas mieux, ils ne vont pas pire, mais il n'y a vraiment aucune différence.
Les gens que vous rencontrez, les familles que vous rencontrez au sein de la coalition, est-ce qu'ils vous disent parler de ça avec leurs enfants, leur expliquer leur relation amoureuse qui peut-être différente de celle des parents, des petits amis à l'école? Est-ce qu'il faut aborder ça avec nos enfants? Comment on le fait?
Mais c'est une question intéressante parce qu'en fait, comme les gens, comme un peu comme présument qu'à un moment, on explique ça à nos enfants. Les enfants qui sont nés déjà dans un contexte homoparental n'ont pas besoin d'une explication de leur famille. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'une maman, il commence à constater qu'il y a d'autres forme de famille. Donc, ils vont comme commencer à la garderie, ils vont commencer à constater, premièrement, qu'il y a des familles comme avec deux parents de sexe opposé ou famille de papa, famille de maman, famille juste avec un parent, famille recomposée. Donc, ils vont commencer à constater ça. Et puis, un peu plus tard, peut-être au primaire, au début de primaire, ils commencent à comprendre qu'ils sont dans la minorité. Donc, que la majorité des familles ne sont pas des familles homoparentales. Et puis, beaucoup de nos enfants, en fait, la majorité sont très à l'aise avec leur situation familiale. Des fois, ils rencontrent des questions. Ça, c'est sûr que les autres enfants vont avoir des questions, mais ce qu'on essaie de faire comme parents, c'est de les outiller à répondre. Donc, les questions, ça ne veut pas dire un préjugé, c'est juste parce que les autres enfants n'ont pas nécessairement vu une famille comme ça. Et puis, nous, comme organisme, ce qu'on fait, c'est qu'on fait énormément des formations en milieu scolaire. Donc, on forme entre 2 à 4 000 intervenants chaque année avec nos formations sur l'homophobie, sur la diversité familiale. Donc ça aussi, ça aide. Il y a de plus en plus, même au primaire, des enseignants qui vont aborder le sujet de la diversité familiale. Donc ça normalise tout ça aussi. Et puis, donc, c'est aidant pour nos enfants. Donc, dans la grande majorité des cas, l'expérience de nos enfants à l'école est très, très, très positive.
Oui. Et d'ailleurs, dans Famille LGBT, le guide, il y a tout un volet à la préparation du milieu scolaire, que ce soit la garderie ou l'école, afin que le parent aussi prenne sa place et puisse pouvoir rencontrer les intervenants ou les enseignants, puis pouvoir en discuter là, en toute ouverture. C'est important aussi pour l'enfant, pour qu'il fasse un cheminement scolaire qui est agréable.
Oui, certainement, parce que en fait, même s'il n'y a pas comme des préjugés ou de l'homophobie, la présomption, c'est l'hétérosexualité. Donc, souvent, ce qui se passe dans les écoles, c'est que il y a juste les familles avec parents hétéros qui sont présentés au Saint-Valentin. Il y a juste des couples avec sexe opposé. Il y a la fête des mères, la fête des pères, l'arbre généalogique. Il y a toutes sortes d'activités qui sont ce qu'on dit hétérosexistes. Donc, ils sont comme cette vision qu'il y a juste un type de famille. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de les sensibiliser au fait qu'il y a, c'est pas juste nous autres, il y a plein d'autres types de familles. Donc, il peut y avoir une famille un enfant dans une famille monoparentale ou d'enfants dans une famille recomposée. Donc, on veut que ça soit tout inclus. Et puis, pour que nos enfants puissent voir leur réalité reflétée dans le cursus scolaire et puis qu'ils ont le sentiment d'être inclus.
Mm-hmm. Mona Greenbaum, est-ce que le rôle parental, je pense peut-être davantage à des familles transparentales, mm-hmm. Est-ce que le rôle parental peut être modifié?
Mais ça, c'est une de nos revendications, c'est que on veut, mais légalement, on veut que ça soit faisable. Donc, un parent qui fait une transition, ça soit reflété sur l'acte de naissance de l'enfant. Donc, si un homme devient femme, légalement, physiquement, dans son identité et tout ça, donc que ça soit reflété dans les documents légaux. Et puis, en termes de comme le rôle, donc la perception du parent et puis de l'enfant, oui, ça peut être modifié. Ça dépend de l'âge de l'enfant, évidemment. Donc, pour une jeune qui a toujours grandi avec un parent trans, donc comme une femme trans, donc ça, la personne va toujours être considérée comme la mère de l'enfant et puis l'enfant va l'appeler maman. Mm-hmm. Mais pour un enfant où le parent se transitionne quand l'enfant a peut-être 16 ans ou 20 ans, donc ça, c'est une autre chose. Donc, l'enfant qui a toujours perçu cette personne comme son papa, donc même si l'enfant est capable de dire « oui, c'est maintenant une femme », mais le rôle parental de papa peut rester. Et puis, on mm-hmm. connaît des familles trans comme ça où les enfants continuent de l'appeler le parent papa et puis de le présenter comme père, même s'ils utilisent le nouveau nom féminin comme, et puis le considèrent comme. Donc, c'est drôle, c'est différent, mais ça fonctionne. Donc, ça, c'est comme intéressant. Et puis, de tout ce qu'on connaît sur la recherche sur les familles avec parents trans, il y a vraiment... Ça fait pas d'impact sur le développement de l'enfant. La seule chose qui nuit à ces familles-là, c'est les préjugés.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on doit travailler dans notre société. C'est pas comme de changer ces familles, mais plutôt de sensibiliser les gens qui vont rencontrer ces familles-là.
Et notamment à l'adolescence, hein?
Oui, mais ça, c'est le temps le plus difficile pour les enfants en général, parce que particulièrement autour de comme entre, je dirais, 11 ans, 13 ans, 14 ans, c'est l'âge de conformité. Hein? Donc, mm-hmm. Les enfants veulent être comme tout le monde, comme ils ne veulent pas être différents. C'est intéressant, avec mes propres enfants, j'ai vu ça. Quand ils avaient comme entre 11, 12 ans, 13 ans, ils voulaient cacher leur situation familiale un peu parce qu'ils voulaient être comme tous les autres. Mm-hmm. Mais là, rendus comme quand ils sont rendus à 16 ans, 17 ans, donc soudainement, c'est devenu cool d'avoir des lesbiennes.
Fierté,
donc,
oui,
c'est ça. Donc, d'être différente est devenu quelque chose d'intéressant. Donc, mais il y a une certaine période, et puis j'imagine que pour les enfants dans les familles trans, c'est encore pire parce que la transsexualité est quand même stigmatisée des fois dans notre société. Donc, ça peut être plus difficile, particulièrement à cette période-là.
Ouais.
Mais en même temps, les parents LGBT ont dû comme eux-mêmes passer à travers des périodes difficiles. Donc, peut-être on peut comme penser qu'ils ont certains outils pour gérer leurs différences qu'ils peuvent passer à leurs enfants. Donc, même si c'est pas comme l'identité ou l'orientation sexuelle de leurs enfants, ils vont passer des outils pour accepter leurs différences sans penser qu'il faut être comme tout le monde. Et puis, je pense que ça, c'est une des richesses de grandir dans une famille LGBT, c'est que on apprend assez tôt dans la vie que c'est pas un négatif d'être différent.
Et ça peut être un grand plus
Oui,
aussi.
c'est ça,
Voilà.
c'est ça. Et puis, donc, on a souvent comme, ça c'est pas scientifique, mais de ce que j'ai vu, et puis j'ai rencontré beaucoup de familles à travers les années, mais les enfants ont une certaine force de caractère et puis sont très comme à l'aise d'assumer leur différence en termes de leur famille. Et puis, donc, pour la grande majorité, même les enfants dans les familles trans, ça va très bien.
Oui. En terminant, Mona, quels sont, bon, bien sûr, il y a la coalition, mais est-ce qu'il y a d'autres ressources partout au Québec pour guider ces familles-là? Bon, le guide est extrêmement complet, je le rappelle, Famille LGBT, le guide publié chez Remue Ménage. Des familles peut-être plus démunies ou qui auraient des questions ou qui seraient confrontées à des réalités un petit peu plus difficiles, vers qui elles peuvent se tourner, ces familles?
Mais sur la réalité des familles LGBT, on est vraiment l'organisme au Québec et puis on a des satellites un peu partout au Québec. Et puis, il y a sûrement aussi notre site web,
oui.
familleLGBT.org, où il y a beaucoup de ressources, d'outils. Les gens peuvent toujours nous appeler au bureau aussi. Et puis, il y a, dans différentes régions, il y a différents organismes. Et pour les familles, c'est comme ça. C'est notre organisme. On est un organisme national et il y a comme, même si on n'a pas, comme par exemple, dans certaines régions, on n'a pas beaucoup d'activités nécessairement, mais on a quand même d'autres familles, donc on peut oui. toujours les mettre en lien avec d'autres familles qui vivent la même réalité.
Lorsque l'on appelle à la coalition, c'est pas rare que c'est vous qui répondez, donc c'est
oui.
encore un plus grand plaisir. Mona Greenbaum, vous êtes directrice générale de la Coalition des familles lesbiennes, gays, bisexuelles et trans et directrice de la publication Famille LGBT, le guide. Merci beaucoup.
Merci aussi.
Au revoir.
Bonne journée.